les amis, merci d'être avec nous. Vous écoutez Radio Chablais, vous avez tout compris. Il est 7h. Elle s'en vient nous conter l'actualité heure après heure. Elle, c'est Léa Journeau.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Bonjour Léa.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le Conseil Général de Viona s'est réuni en séance extraordinaire hier soir. Pour la deuxième fois en un peu moins de 2 mois, il devait se prononcer sur la mouture 2026 du budget communal rejeté en décembre dernier. Il a finalement été accepté ce mercredi soir par 23 pour et 5 abstentions et aucune opposition, mais il affiche toujours un surplus de charges. Celui-ci a néanmoins été réduit. Il est passé d'un peu plus de 3 millions de francs en décembre à 2 180 000 francs. Quant à la marge d'autofinancement, elle est passée d'un déficit de 1,5 million de francs à un manque de 633 000 francs et sont la traduction de déficits structurels et non conjoncturels, précise le responsable des finances de Viona et vice-président de la commune Raphaël Filier. Il ajoute que la discussion autour de la qualité souhaitée des services communaux doit être engagée.
Ce soir, personne n'a dit qu'il fallait supprimer la crèche. Tout le monde est pour qu'on ait une crèche, mais quel niveau de crèche on veut? Quel niveau de bibliothèque on veut? Quelles sont les ambitions qu'on a? C'est irresponsable de dire qu'on veut tout à la fois, donc on doit fixer des priorités, fixer un niveau d'ambition, et en même temps avoir cette discussion sur quelles recettes on accepte de mettre à ce niveau d'ambition au niveau de la commune, et avoir une discussion sur les impôts. Beaucoup de monde a parlé des dépenses qui avaient été réduites, mais personne n'a formulé de proposition pour augmenter les recettes.
Un sujet signé Guillaume Abbé.
La Tour de Paix pourrait entreprendre la transformation de son château.
Une réfection intérieure et extérieure à près de 9 millions de francs. Une mise à l'enquête publique en ce sens a été déposée la semaine dernière par la municipalité Boélande. Un premier projet de rénovation avait été rejeté il y a 10 ans. Cette fois, la population a pu faire part de ses attentes concernant la transformation du château, monument classé d'importance nationale. Une démarche a déjà été entreprise auprès du canton qui a validé le projet. Et si tout se passe bien, les travaux pourraient débuté en mai 2026 pour une fin estimée en 2029. Des précisions d'Yves Roulet, chef de service domaine et bâtiment.
Il s'agira de travailler par étapes, d'une part parce que le musée suisse du jeu va conserver un maximum de son activité, donc c'est toujours compliqué de faire un chantier et de conserver une activité institutionnelle. Donc évidemment, on va travailler en collaboration étroite avec le musée de telle manière à ce qu'on puisse joindre tout le possible et le nécessaire pour réaliser cette installation et cette rénovation.
Parce qu'effectivement, le château de la Tour de Paix abrite depuis près de 40 ans le musée suisse du jeu, dont l'activité sera de facto impactée par les travaux. Mais pas de quoi inquiéter son directeur, Selim Krishan.
On va le gérer avec calme et sérénité. On va le gérer en collaboration étroite avec la ville. Et là, je pense que c'est très précieux d'avoir une bonne entente et une bonne collaboration. Et on l'a, donc on est très chanceux. Et on va tout faire pour couper l'activité du musée sur une période la plus courte possible.
Des propos recueillis par Martine Vustiner. Le conseil communal doit encore se prononcer concernant le crédit de construction. La décision devrait être prise lors de la séance de février ou de mars.
Mieux détecter l'espionnage, la désinformation et les cybermenaces.
C'est l'objectif de la révision de la loi fédérale sur le renseignement. Le projet est prêt à être transmis au Parlement. Le conseil fédéral l'a adopté hier. Cette révision donne de nouveaux outils aux services de renseignement mieux adaptés à la réalité sécuritaire. Il sera par exemple possible de mettre en place une surveillance en cas d'extrémisme violent. Les précisions de Serge Bavot, le directeur du service de renseignement de la Confédération.
L'extrémisme violent, il peut être de droite, il peut être de gauche, il peut être monothématique. Cet extrémisme violent est déjà bien décrit, notamment si vous reprenez le rapport sur la sécurité 2025 du service de renseignement. De plus, cet extrémisme violent est aussi décrit dans la loi actuellement, donc dans le message tel qu'il est. Pour nous, l'extrémisme violent devient un problème lorsqu'il y a effectivement une menace grave qui est liée à certains mouvements. Et c'est pour ça qu'on a besoin maintenant de mesures renforcées.
Les mesures de surveillance les plus intrusives devront être approuvées par le tribunal administratif fédéral et le ministre de la Défense. La division de la police de l'immigration américaine, appelée aussi ICE, envoyée en Italie pour les Jeux Olympiques, ne patrouillera pas et aura un rôle consultatif, a indiqué hier l'ambassadeur américain à Rome. Il s'agira pour l'ICE d'apporter son expertise en fournissant des renseignements sur les menaces criminelles transnationales, avec un accent particulier sur la cybercriminalité et les menaces à la sécurité nationale. Toutes les opérations de sécurité resteront de la responsabilité des autorités italiennes, a précisé l'ambassadeur américain. africain après une rencontre mardi avec le ministre italien de l'Intérieur. Un tribunal néerlandais a sommé hier les Pays-Bas de mieux protéger du changement climatique une de leurs îles. La population de Bonaire, cette petite île néerlandaise des Caraïbes, est traitée différemment des habitants des Pays-Bas européens sans raison valable, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, a-t-il ajouté. Le tribunal a aussi ordonné à l'État d'établir dans un délai de 18 mois des objectifs clairs et contraignants pour l'ensemble de l'économie néerlandaise en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Et on passe au sport, on parle de ski alpin.
Le slalom de Schladming n'a pas souri aux Suisses hier soir. Meilleur helvète Tanguineff, 9e. Vainqueur la veille sur le géant, Loïc Meillard était lui bien parti pour s'offrir un nouveau podium après avoir signé le 3e chrono sur le premier tracé. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise est toutefois très vite parti à la faute en deuxième manche sur un tracé que de nombreux athlètes ont qualifié de compliqué. On écoute Loïc Meillard.
Oui, après c'est exactement ce qui me convient, où je peux montrer du bon ski, et donc voilà, je pense que la déception est d'autant plus grande.
Justement, cette sortie de piste, comment vous l'expliquez ?
Simplement parce que j'ai pas bien skié, et donc voilà, j'avais pas la bonne ligne, et je sors.
Évidemment que cette sortie ne met pas tout en question ces derniers jours. Kitzbühel, Schladming, qu'est-ce que vous retenez de ces derniers jours, justement, en prévision des Jeux Olympiques ?
Non, c'est clair, tout ça n'enlève pas. Après, je pense en ce moment, c'est un peu tout, ça paraît tout très lointain et c'est la déception qui prend le dessus. Donc voilà, maintenant il faudra quelques jours pour se reposer et passer par là-dessus.
Et si Loïc Meillard a été éliminé, Daniel Yul non plus n'a pas trouvé les clés de la victoire. 21e de la première manche, le skieur de la Foulie a finalement échoué au 17e rang. Ramon Tenhoisern a marqué des points pour la 3e fois de la saison grâce à son 20e rang final. Enfin, dernier moment en lice, le Vaudois Marc Rochat ne s'est lui pas qualifié pour la 2e manche. La victoire est revenue au Norvégien Henrik Kristoffersen qui s'est imposé sur la planaille pour la 5e fois de sa carrière. Le podium a été complété par un autre Norvégien, Atleli McGrath et le Français Clément Noël. Et tout ceci était un sujet de notre envoyé spécial à Schladming, Thierry Nicolet.